Je me suis dit que j'allais un petit peu regarder dans le rétroviseur, voir ce qu'avaient été, je dirais, quelques moments de la relation de Jean-Luc Steinmetz avec la revue Europe. Ce qui est très intéressant, alors c'est facilité parce que maintenant on a numérisé les archives de 1923 à 2000, donc la recherche est relativement aisée. Ce qui est très intéressant, c'est que la première chose qu'il publie, ce sont en fait des poèmes. C'était en 1969, en janvier 69, donc il avait à peine 29 ans. Et voilà. Et je veux juste citer trois vers de ce cycle de poèmes qu'il nous avait donné. Toujours à la pointe du futur se joint la voix depuis les premiers temps chanteuse. C'était d'une certaine manière ouvrir sur l'horizon de tout un cheminement ultérieur.
Ça a été repris, ça, dans mon deuxième recueil
Ah bah,
publié chez
les
Hubert.
revues servent aussi à ça, à être,
Et
à essuyer ses propres plâtres, si je puis dire.
ça s'appelait, dans la revue Europe, ça s'appelait Fraction de tir.
Voilà, eh ben quelle mémoire.
Ouais. Ah bah.
Alors là, je vous envie. J'ai relu aussi quelques-uns de ces textes critiques parus dans la revue, enfin des études, hein, parce que quelques-uns m'avaient laissé un souvenir très vif, et notamment, il y a fort longtemps, dans un numéro, alors il a écrit sur différents poètes, hein, c'était essentiellement sur des poètes qu'il a écrits, ça pouvait être des poètes du 19e siècle, enfin Mallarmé essentiellement. Ou Rimbaud, mais aussi très, enfin, j'ai trouvé très intéressant les textes qu'il avait confiés, que ce soit sur Pierre Reverdy, que ce soit sur Jean Tortel, et puis celui dont je vais dire quelques mots, c'est un texte sur Francis Ponge. Là encore, ce sont des textes critiques qui me laissent penser que, certes, cette activité de lecture est distincte, ne saurait pas se confondre avec l'écriture du poème, mais qu'en même temps, on ne saurait pousser trop loin la schizophrénie qui voudrait absolument enfin, séparer les choses. Parce qu'en fait, on constate qu'il y a des passerelles et que, d'une certaine manière, de la même façon que pour un poète traducteur, il y a des passages entre ces deux activités. Je crois que dans le cas de Jean-Luc, il y a manifestement un passage, des passages entre ces deux activités-là. Le dossier qui lui est consacré, et c'est bien normal, met l'accent sur l'œuvre du poète, mais je voudrais simplement, comme ça, à titre pour engager les choses d'ouverture, vous donner à entendre quelques lignes simplement de ce qu'il écrivait sur Francis Ponge, un texte donc qui m'avait beaucoup marqué et qui, de la même façon que parfois les poètes écrivent ou proposent un poème qui a valeur d'art poétique, là, il y a peut-être aussi quelque chose d'un art de la lecture, ou en tout cas d'un angle de lecture. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il faisait un distinguo entre la critique gynécologique, de gynécologue en quelque sorte, et la critique d'amoureux du texte, d'amant du texte. Et ça m'avait vraiment frappé, parce que j'étais fort jeune encore à l'époque, et je me suis dit, oui, il force le trait, mais en même temps, c'est juste, et en tout cas, ça nous met certainement des garde-fous, une formule comme celle-là.
C'est bien gynécologique, hein, c'est
Tout,
ça.
ah, bah, je vais
Pas
le lire, hein.
génétique, hein,
Non, 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 non,
gynécologique.
oui.
Il y a l'amoureux
Alors,
du texte.
donc,
Et... Oui, je me souviens de ça.
il commence par évoquer le fait qu'il a lu Ponge et que quelques-uns ont lu Ponge avant que n'arrive enfin, en nombre des lectures critiques. Et il enchaîne comme ceci. Il revient à des nuées d'analyseurs d'étudier objet par objet tous ces textes pour nous dire comment ils fonctionnent, entre guillemets. Qu'ils fonctionnent, oui, à plein ou à vide pour des générations de technocrates littéraires et d'inspecteurs d'académie, puisque lui-même s'empara de ce mot, s'en éjouit quelque peu, s'en amusa, en abusa, leur accordant ainsi à l'avance un prodigieux et malheureux satisfecit. Cependant, puisque pour certains l'œuvre décidément se montre selon de tout autres données, ne conviendrait-il pas d'en parler en lecteur adulte, amoureux de cette femme aux étranges jouissances ? Amoureux, j'insiste bien, et non gynécologue. Je crois en effet venu le temps, et peut-être parce que le père est mort, qui veillait avec elle, sur elle avec un soin jaloux, de dire le plaisir qu'on en a de cette femme, de ce texte, et d'assurer qu'il y a bien là bonheur, acte érotique dans une certaine mesure, et qu'on peut s'en lasser tout autant de ce coup érotique du père, multiplement tenté par l'auteur et répercuté jusqu'au lecteur, voyeur à sa façon. Telle est bien la réalité du texte pongien, la plupart du temps d'ailleurs passé sous silence, sa sexualité. Ponge en personne s'en est pourtant fort bien expliqué dans des airs, il est vrai, post-68arde, où l'on mettait du sexe à tout. Lacan proclamant à Vincennes « Vous voulez du maître, vous en aurez », ce qui est bien parlé aux hystériques. Apparemment guidé par Solers, comme Socrate aurait pu faire semblant de l'être par Alcibiade, Ponge remarquait abondamment pour son fervent interlocuteur que tout ce que nous voyons à plat sur la page, c'est affaire d'érotique, c'est grande volupté. Le grand recueil ainsi s'ouvrait sur la mort du père, le vrai père de Francis Ponge, immédiatement suivi de la naissance par la naissance de Vénus. Rien n'avait été plus concerté, et Ponge me le confirma de nouveau par un bel après-midi de juillet 1976, où d'autres étaient allés voir naître Vénus sur la mer près de Granville, où je n'ai jamais rencontré que la fée aux miettes. Voilà, c'est bon. C'était pour vous régaler d'un morceau de la prose critique de Jean-Luc.
Et maintenant, c'est assez souvent comme ça, oui, quand je fais un texte critique. Oui.
Voilà. Oui, oui. Donc maintenant, on va entrer dans les matières, la matière du poème, à travers ce dialogue que tu vas avoir avec notre ami François Ranoux.
Merci pour cette présentation qui fait remonter beaucoup de choses, hein, et qui montre que le poète est aussi un critique, pour reprendre Baudelaire, la grande leçon venant de Baudelaire.
C'est vrai.
Merci.
Alors, merci à Jean-Baptiste. Merci également à Entrevue de nous accueillir ce soir. Et je crois que c'est une salle de l'EHESS qui nous accueille également. Hein, donc, merci à vous aussi d'être là. Et ce soir, il y aura donc une rencontre avec Jean-Luc Steinmetz, puisque ce dossier d'Europe qui est consacré en grande partie à Georges Bataille contient aussi un dossier Jean-Luc Steinmetz consacré essentiellement au poète Steinmetz, qu'on connaît finalement assez mal, hein, et qu'on peut essayer de définir de la façon suivante. J'ai repris un peu ce que Béatrice Bonhomme dans la revue écrit. Elle dit ceci: Jean-Luc Steinmetz est un poète libre et c'est ce qui fait l'extraordinaire parcours de son œuvre. Rien de confortable en cela, mais une liberté assumée par-delà les modes et les territoires. Une liberté qui certainement un peu, parfois, peut dérouter, avec une sorte d'impertinence de ton dans les textes critiques et une grande liberté dans l'écriture poétique. Et justement, Jean-Luc, est-ce que tu prends des textes, tu fais des livres d'aujourd'hui avec parfois des textes d'hier que tu reprends, tu traverses les différentes temporalités, tu n'as pas peur d'être, comment dirais-je, de perdre ton lecteur?
Oui, c'est un grand problème pour un lecteur qui veut me suivre, parce que chaque recueil, quand même, un peu plus qu'un recueil, c'est un livre qui fonctionne en soi, sans être tout à fait autonome, relié à d'autres livres, mais le repérage ne peut se faire que selon la destinance de mon œuvre. Donc, cette œuvre trace au fur et à mesure quelque chose que je ne connais pas encore, mais qui me dépasse assurément et à quoi j'obéis. Ce n'est pas une lecture, ce n'est pas une lecture sûre, mais il y a quelque chose qui me traverse, nous allons en parler en essayant de le définir d'ailleurs, en essayant de la définir, et je suis surpris moi-même de ce qui a lieu lorsque se met en place un nouveau livre. Donc par exemple, mon dernier livre était tout à fait imprévisible et en même temps il est là dans sa nécessité. Alors là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, si on considère mon œuvre, qui se fait encore, c'est, je vous dis, il y a quelque chose de destinal, ou une destinance, une nécessité se fait jour, mais tout en se faisant jour, elle peut soulever de grands pans d'obscurité, bien sûr. Donc, j'appelle ceux qui me lisent à une certaine prudence, tout en tenant compte de la témérité qui se manifeste presque à mon insu dans chacun de ces livres. Quand je parle d'insu, bien sûr, je fais un signe du côté de l'inconscient. Mais je ne suis pas un écrivain faisant jouer les notions analytiques. Je les connais. J'ai peur je crains qu'elles se referment sur moi. Mais je tiens beaucoup compte de cette insu. Ce qui n'empêche pas que je désigne aussi l'aspect destinal qu'il y a dans mon œuvre. Voilà.
Une sorte de courant actif. C'est Henri Seppi qui parle de cela à un moment donné dans son étude, toujours dans la revue. Il parle d'un courant actif qui mobilise tout l'être, qui mobilise toutes les facultés, et sollicite l'âme et le corps, les mots et les sens.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se tisse à travers tout ce corps, tout cet absolu du corps ?
Ben, je crois qu'il faut être très simple, enfin si je veux parler de moi, très simplement, je vais me référer à un auteur que j'aime beaucoup, qui est Virginia Woolf. Bon. À un moment, dans la promenade au phare, on voit une femme peintre, Lily Briscoe, qui se dit, mais qu'est-ce que ça signifie ? Elle se pose la question, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que les choses signifient ? Pourquoi je suis là, etc. Bon, et ben ça, c'est le point de départ de ma poésie. C'est quand j'ai 6 ans, qu'est-ce que ça signifie qu'être au monde ? Alors évidemment, ça pourrait donner lieu à une réflexion à la Heidegger, que je connais bien d'ailleurs, plus tard. Hein. Une réflexion contre la phénoménologie. Mais ça a été beaucoup plus mystérieux que ça et je n'ai pas gagné, n'est-ce pas ? À chaque fois, je dois rejouer le coup de dé, n'est-ce pas ? Hein ? En pensant que je vais peut-être amener le bon chiffre, enfin, le chiffre parfait. Alors ça a été, c'est un point de départ. Un point de départ que j'ai retrouvé après dans la philosophie, celle des présocratiques, c'est-à-dire très précisément le verbe être. Donc tous mes poèmes, ce verbe être joue. Et il joue par rapport au, il joue par rapport aux étangs, justement. Les étangs, les choses. Toutes les choses. Les êtres, les choses, voire les sentiments, etc. Bon, ça, c'est un point de départ. Il est franchement parménidien. C'est la première fois que je le dis ce soir. Les critiques ne sont pas allées jusque-là, parce qu'ils pensent que... parce que c'est à la fois intelligent et simple, n'est-ce pas ? C'est intelligent et simple. C'est-à-dire, c'est une affaire d'aurore. C'est une affaire d'aube de la pensée. Et cette aube de la pensée, moi, je la rejoue aussi dans mes poèmes, ce qui explique qu'ils sont toujours inattendus et que la syntaxe n'est pas prévisible. Mes poèmes ne sont pas prévisibles. Mais ils ne sont pas prévisibles, non pas en vertu de quelqu'un qui laisserait la parole à l'inconscient, mais ils sont pas prévisibles parce que il y a la recherche de l'être qui se joue à chaque fois, dans chaque poème.
Et en même
alors
temps,
évidemment, oui.
En même temps, une sorte de disposition du temps, finalement.
Ça, si on peut déborder sur le temps, n'est-ce pas ? Mais là, je suis... Remontons à l'initial, n'est-ce pas ? Un slogan, un de mes slogans, s'il y en avait un, ce serait « En route vers l'initial ». Voilà. Alors, évidemment, ça ne donne pas du tout quelque chose comme Char. Pas du tout. Parce que je ne pense pas que Char était en route vers l'initial, d'abord. Pas, hein. Il a fallu qu'il y ait la rencontre avec Battistini, et tout, etc. Cette espèce de... les séminaires de Char avec Heidegger, pour qu'il avance d'un cran. C'était dans sa poésie, d'ailleurs. Bon. Là aussi, il y avait une destinance. Bon. Alors, il y a autre chose que je dois dire, et que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais qui apparaît dans ce numéro d'Europe, c'est que moi, en tant que je, en tant que première personne, j'ai beaucoup de mal à arriver à la première personne. Je suis quelqu'un qui a eu du mal à arriver. J'ai été frappé, si on peut dire, touché. Nous sommes pendant la guerre, n'est-ce pas ? Hein ? Je suis né pendant cette période. Ma scolarisation est très pénible et elle est les débuts. Et il y a la dyslexie qui est là. La dyslexie est là, c'est-à-dire... Je suis le cancre de l'école de Saint-Avertin, dans la première, au début, là. Hein, je peux pas lire. Je ne comprends pas ce que c'est que lire, et je comprends pas ce qu'est écrire. Alors, pour moi, évidemment, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que mon raisonnement d'enfant, n'est-ce pas, était contre l'abstraction du langage. Je n'arrivais pas, et j'ai encore du mal, à admettre l'arbitraire du signe. Parce que pour moi, chaque chose se présente dans son originalité, dans sa singularité. Et je ne voudrais pas perdre ce que la philosophie appelle la quidité aussi. Je voudrais pas perdre ça. Mais évidemment que quand nous nous exprimons à partir d'un arbitraire et que beaucoup de choses sont perdues. Hein? Parce qu'il y a une espèce de castration. Hein? Alors, mon rapport à la poésie vient de ce que... Je ne veux pas encore perdre ça. Je ne veux pas être dans l'arbitraire du langage. J'en ai besoin. Mais je suis à chaque fois... pour être en contact avec une singularité, l'extrême variété du vivant. Bon, alors là, vous avez les éléments de base, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le questionnement de l'être, le verbe être, et les étangs. Puis si on voulait aller plus loin, on irait vers les dokunta, c'est-à-dire, comme Parménide le dit, c'est-à-dire la semblance. Il y a les choses qui sont, et puis il y a les choses qui apparaissent aussi. Toute la philosophie platéenne, par exemple, elle est contre l'apparaître. Mais quand on lit le poème de Parménide, on s'aperçoit, c'est d'ailleurs assez curieux, il donne une importance. Fiez-vous un peu aussi aux apparences. Fiez-vous. Puis après, vous les traversez. Mais ne rejetez pas les apparences au nom d'une espèce de réalité qui serait celle uniquement du langage reposant sur l'arbitraire du signe. Bon, ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est cette difficulté majeure. Bon. Difficulté de base. Un poète qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Voilà. C'est un point de départ pour moi. Alors évidemment, par la suite, j'ai sublimé tout ça. Mais tardivement, l'espèce d'analyse que je fais sur moi, qui me mène de plus en plus loin, me fait mettre ça en valeur. Et explique la particularité ou l'originalité de ma poésie. Ça ne m'amuse pas beaucoup d'être original comme ça, d'ailleurs. C'est pas tellement drôle. Hein. C'est-à-dire, je vois pas les choses de façon commune. Mais pas parce que c'est pas pour faire mon tour d'histrion. Hein. Et c'est que mon rapport est constamment dirigé vers autre chose et que ne peut pas satisfaire totalement la langue telle que les hommes la pratiquent. Ça. Donc, nous sommes tous orphelins de beaucoup de choses à cause de l'arbitraire du signe. On est coupé de quelque chose. Et quand j'écris ma poésie, ma poésie fait revenir une espèce de grand geste comme ça pour étreindre la Vénus multiple.
Alors j'aurais déjà une petite question qui me vient à l'esprit. Vous avez fait référence à Parménide, à Platon. En vous lisant, parfois, je me suis demandé si vous n'aviez pas un rapport assez fort avec Lucrèce. Dans le regard sur...
Non, avec Lucrèce, c'est déjà fichu.
C'est déjà fichu.
C'est perdu. Non, non, c'est la chose qui se passe, c'est vraiment l'aube.
Non, mais je...
L'aube de la pensée... autour de l'être, autour de ce verbe qui est franc. Évidemment, quand plus tard, j'ai eu une épouse japonaise, mon épouse japonaise, au Japon, dans l'extrême-orient, le verbe être, c'est une autre affaire. Hein. C'est pas si simple.
je pensais à Lucrèce pour une chose un peu spécifique. C'est que dans tout ce qui peut composer... Cet univers de vos poèmes, il y a aussi qui intervient énormément la question du regard sur le monde, sur les choses, sur le proche, sur le lointain, etc. Or, l'une des caractéristiques de votre regard, qui n'est pas la seule, mais enfin, je le ressens ainsi, c'est que c'est un regard qui a aussi bien une capacité à s'approcher au plus près qu'aussi une capacité de recul. Et je pensais au célèbre passage de Lucrèce où il décrit une tempête sur la mer, etc.
Tu avais Marie Magno.
Voilà. Et je me dis que vous avez à la fois une capacité, je dirais, d'implication et aussi de distance, de prise de distance ou de recul assez considérable. Ce qui veut dire que même si vous saisissez des choses du vif de l'instant, il y a aussi une autre dimension temporelle beaucoup plus large qui peut se faire jour. Et je voudrais qu'on entre, pour vous permettre d'aller plus loin, peut-être tout simplement dans votre atelier, au moment d'atelier de poète, comme on dit d'atelier de peintre, au moment où vous avez écrit ce livre qui vient de paraître, Vers l'Apocalypse.
Oui.
Parce que, il est difficile d'en parler, tellement ce livre est riche et on ne peut pas en faire le tour rapidement. Mais grosso modo, on peut dire que c'est à la fois un livre ou est brassé ou est saisi, quand sont saisies quantité de choses et de périls, je pourrais dire qu'il est donné à tous nos contemporains de vivre, et en même temps une sorte de distance, de recul énorme qui peut être pris, puisque je dirais dans le jeu, dans la danse entre ce qui se présente d'imprévu dont vous avez parlé et aussi une partie que je dirais plus concertée, il y a quelque chose qui est comme un fil rouge, c'est le livre de l'Apocalypse de Jean, qui est là-dedans une référence constante. Donc, je veux dire, faire en quelque sorte interférer une sorte de relecture ou de proximité actuelle avec ce texte qui vient quand même du fond des âges, avec des choses qui nous parlent comme si... Il y a même un ton prophétique, puisque vous avancez certaines choses qui, au moment où vous écriviez le poème, n'étaient pas encore attestées et qui le sont devenues tout récemment, depuis, quoi. Et donc, je ne veux pas vous faire passer pour un devin. Hein,
surtout pas.
Bon, voilà. Non, mais c'est pour dire que... Vous arrivez à mettre en tension ou à faire converger des modes de regard et des échelles de temporalité très différentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a forcément une part de recul, d'implication, oui, à la fois dans ce qui est le plus immédiat et en même temps de recul énorme.
Oui, oui, oui. Non, mais là, évidemment, il faudrait que nous parlions très longuement, et pour en ce qui concerne le regard, évidemment que très tôt j'ai un contact phénoménologique, sans connaître le mot, n'est-ce pas, phénoménologique avec l'en dehors. Donc il y a moi et il y a l'en dehors, et quelque chose se passe là, mais c'est comme ça pour chacun de nous. Si vous lisez bien Husserl, c'est ça. Le Sien, c'est ça. Bon. Le Gegenstand, c'est ça. C'est les termes de la phénoménologie courante. Bon, il se trouve que je ne suis pas du tout philosophe, mais je suis un lecteur de la philosophie. Mais si j'écris la philosophie, c'est évidemment à un endroit que ne peut... que si j'écarte la philosophie... parce que je pense que la poésie a son mot à dire. Mmh. Elle n'est pas supplétive, mais elle parle autrement. Mmh. Elle parle autrement, à la limite, hors concept. Ça, c'est encore une chose terrible, le concept. Il y a le concept, il y a la notion, il y a l'arbitraire du si, tout ça. J'ai l'air d'être très... comment dire, très intellectuel, trop intellectuel en parlant de ça, mais croyez-moi, c'est notre matériau, n'est-ce pas ? Là, je parle métier. Je parle métier. Je parle le métier du texte, le texte en tant que métier et en tant qu'artisan, si on veut dire. Alors, ce rapport phénoménologique, c'est-à-dire qui est en rapport avec le phénomène, c'est-à-dire qui est en rapport avec l'apparence, évidemment que je l'ai trouvé magnifiquement dans Ponge. Évidemment. Et l'un des grands lecteurs de Ponge, avec qui j'ai beaucoup discuté quand on était lors du grand colloque de Ponge à Cérisy, c'est Henri Maldinet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, c'est le lecteur de Ponge qui a le mieux cerné travail qui est le mieux mis en rapport, le travail de Ponge et le regard, l'objet, etc., la présence de l'objet. Et puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé de ça. Je l'ai dit dans un poème d'ailleurs très familier, hein, les lettres que j'ai adressées à quelques-uns. C'était Jean Tortel. Voilà. Jean Tortel qui m'a... On était en face du là-devant. Là-devant. Des choses simples. Pas... Bon. Alors, ça, c'est pour le regard, une espèce d'éclaircissement pour le regard. Et puis, autrement, ma façon, si on peut dire, ma manière, depuis une vingtaine d'années, c'est de combiner, alors je ne parle pas d'intertextualité, ça ne faudra encore pas, c'est de combiner l'ici et le là-bas. Le maintenant et autrefois ou futur.
Voilà, c'est ça.
Combiner ça, la combinaison de ça. Donc là, je suis dans proprement mon espace poétique qui est un peu à la jonction de ça. Il y a un tremblement du temps. Un tremblement du temps, ce tremblement du temps peut mener vers une prescience plus que vers une tradition, évidemment. Et par ailleurs, la combinaison de l'ici et du là-bas a été renforcée chez moi quand j'ai commencé à beaucoup voyager. Voilà. Ces grands voyages, cette façon de ressentir l'histoire, sans ressentiment, cette façon de ressentir l'histoire m'a mené très tard, à 80 ans quand même, vers l'Apocalypse, que je ne pouvais pas écrire avant. Ça, c'était destin d'écriture. Donc ça ne m'a pas demandé beaucoup de travail, et c'était une lecture de collocation avec Saint Jean. Bienheureux qui peut comprendre d'ailleurs Saint Jean. Moi, je l'ai compris comme j'embrasse quelqu'un. Je l'ai compris. Mais pour parler d'une question qui est extrêmement importante pour Baudelaire, par exemple, la question du péché originel, j'ai évacué ça. Évidemment que le jugement dernier, l'Apocalypse veut dire le voile, c'est le dévoilement. Mais dans ce dévoilement, il y a le jugement dernier. Ben, le jugement dernier, moi, ça me passe pas là. Hein. C'est pas possible. Je suis comme Rimbaud, là. Hein. Ça, livre nègre. Ah oui, je vais écrire un livre nègre. C'est pas possible. Pas possible de naître avec le mal qui tombe sur moi comme ça. Hein. Il n'empêche que, ouais, évidemment, il faut l'expliquer, le mal. Hein. Alors, ça travaille ma poésie. Hein. Il y a le mal. Et puis, si on veut tirer ça vers quelque chose, qu'est-ce que va être le bien? Alors, évidemment, moi, je m'en exempte avec la beauté. Ce qui n'est pas le cas de Bataille, n'est-ce pas? Bataille fait revenir massivement la laideur. Hein. Ça n'est pas mon cas. C'est évidemment que ce phénomène du beau, cet équilibre, cette harmonie m'importe, à condition que l'harmonie soit polutrépone. Comme dit Héraclite, l'arc, la lyre. Pour que l'arc fonctionne, pour qu'il y ait la lyre, que les résonne, il faut qu'il y ait des contradictions. Donc évidemment, la notion de contradiction est toujours là. C'est peut-être la façon de me débrouiller avec le négatif. Quelqu'un qui m'a beaucoup appris de ce point de vue-là, c'était Alain Jouffroy. Bon. Mes conversations avec Alain Jouffroy, particulières comme ça, étaient autour de ça. Ça se trouvait comme ça. On était assez vite sur cette longueur d'onde. Mes conversations avec Tortel, c'est le là-devant, etc., etc. Et vous voyez que ça se situe toujours à un certain niveau, une altitude, évidemment, qui ne va pas de soi. Qui ne va pas de soi. Et donc, ma poésie, ben oui, il faut monter assez haut pour commencer à la lire. C'est pas... Mais je suis évidemment très, très sensible au malheur des hommes et à l'à-peu-près constant dans lequel ils vivent et à l'oubli dans lequel ils sont, l'oubli d'eux, l'oubli de leur être. Je suis très sensible à ça. J'ai une grande compassion pour ça. Une grande compassion pour tous. En ce sens que nous sommes presque constamment oublieux de l'essentiel. Mais évidemment, nous sommes dépassés par l'activité que réclame notre présence. Mais cette activité que réclame notre présence aboutit à une vraie présence différée. La vraie présence, elle est différée. Oui, on pensera aux choses sérieuses demain. D'accord. Oui. Ben non, moi, ma tendance, c'était de penser à ce genre de choses, aux éléments dont je vous ai parlé, qui sont le temps, qui sont l'espace, qui sont... et c'est constamment comme ça. Alors évidemment, je suis plutôt lointain. Mon rapport avec l'autre n'est pas très facile. Bon, on ne va pas faire de la cour. On va pas faire de la psychologie.
Enfin, ça montre aussi une certaine grande capacité d'accueil. D'accueil, de vigilance.
J'aurais bien aimé.
De ce qui est.
Non, capacité de sympathie avec la poésie. Je suis en état de sympathie. C'est-à-dire, Rimbaud est très proche pour moi. Le dernier livre, Rimbaud de Clinchamp, très proche. Je vois ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est quelque chose, à chaque fois que quelque chose se passe pour moi, eh bien l'esthétique est dépassée. Et on va vers un élément qui est le spirituel. Au sens le plus matériel du mot, si je veux dire.
Oui, oui, parce que... Hein,
le combat spirituel.
Dans le...
Le combat spirituel est plus fort que le combat.
Voilà, c'est ça. Mmh. Ça n'a rien à voir avec le religieux. Parce que...
Ça n'a rien à voir avec le religieux, voilà. Mais le religieux est absolument nécessaire aux hommes. Donc nous sommes...
Enfin, dans votre dernier livre,
nous sommes très orphelins.
Vous vous présentez
aussi,
sous la figure du mécréant, hein, quand même.
Oui, oui, oui. Oui, je suis un athée qui ne se tait.
Voilà.
Mais enfin, un athée qui ne se tait, ouais, ça suppose que je suis au nœud des contradictions.
Oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, repartir sur la route de l'apocalypse...
Évidemment, l'Apocalypse, c'est quand même le voile qui se dévoile. Donc, c'est un lieu essentiel qui est en rapport avec notre regard, d'ailleurs, sur l'apparence et l'existence et l'essence. Alors, je m'excuse vis-à-vis de l'Assemblée. J'ai là devant moi des gens extrêmement cultivés. Érudit pour certains, et donc je n'hésite pas à aller billes en tête, pour parler billard. Je vais à l'endroit le plus fort. C'est pas la peine de faire des contournements, n'est-ce pas ? Alors évidemment, quand j'entends mes amis poètes, d'autres, évidemment que ça me paraît faible. Oui. Ils n'y sont pas. Enfin, ils y sont sans y être. Ils sont dans l'oubli, ils sont dans l'effacement de quelque chose d'essentiel. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai conquis l'essentiel, mais c'est ma préoccupation. C'est mon affaire. C'est mon truc. C'est mon truc. Voilà. Je suis venu pour ça. Je suis venu au monde pour ça.
Ça a été la poésie tout de suite.
Très certainement. Oui,
la poésie tout de suite, pas le roman.
La poésie est première. La poésie est première en tant qu'elle est le point de départ et l'étonnement et le questionnement et l'interrogation. Alors évidemment, ce n'est pas très confortable. Il vaut mieux être comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas ? Mieux vivre dans la vie comme un poisson dans l'eau. S'il y a cette distance, la lacune est là.
Alors, je voudrais parler aussi de l'évocation du passé, parce qu'en fait, la nostalgie chez toi est un peu présente, mais jamais le regret. Tu dis d'ailleurs, il y a beau temps que les regrets n'égratignent plus ma nuque. Alors, c'est toujours en fait une sorte d'avancée. Une sorte d'avancée, ton œuvre, tu viens de le dire, c'est une sorte d'avancée, d'affranchissement. C'est Daniel Levers qui parle de franchissement, d'affranchissement.
Oui.
une sorte de ligne gagnée. Toujours ce moment d'avancer.
Il y a l'idée qui me rapproche, de ce que j'ai pu lire chez Bataille. Il y a cette idée de dépassement, n'est-ce pas? Mais je déteste la violence. Je déteste le pouvoir, ce qui m'a coûté beaucoup de choses dans l'université d'ailleurs. Déteste le pouvoir, déteste la violence. Ça m'arrive de vouloir tuer quelqu'un. Bon. J'ai un ami qui peut voir ça, qui peut m'en certifier. Bon, je déteste la violence, je déteste le pouvoir, et quelque part, je déteste l'arbitraire du signe. Voilà, enfin, il faut tenir compte de cet inconfort où je suis, mais c'est, je sais que la poésie permet d'apporter quelque chose, mais elle n'est pas de l'ordre de la prière, elle n'est pas de l'ordre de la guérison, ce serait trop beau, hein. Ce serait trop simple. Elle peut apporter une forme de beauté chargée d'un sens qui est l'interrogation permanente du sens. Voilà. Mais d'un autre côté, comprenez bien que c'est quand même très jouissif aussi, hein. Comme disait Ponge, n'est-ce pas, l'objet, je vais écrire comme ça, je vais faire des brouillons. Et il y a un moment où il va jouir, un moment où je vais le faire jouir. Je raisonne peut-être en mal, masculin.
Mais ces brouillons...
Ponge, on lui a reproché.
Ces brouillons, justement, les brouillons dont tu parles, tu ne les as pas donnés. Tu as annoté.
Ah oui, les brouillons, oui.
Tu as annoté. Par contre, tu as annoté, tu as écrit sur un certain nombre de cahiers. Ouais. Enfin, quelque chose d'assez étonnant.
C'est j'aime pas donner.
Commentaire.
Ah oui, le commentaire, oui.
Tu pourrais.
Tu fais bien de dire ça. Il m'a été donné de pouvoir confier à la Bibliothèque nationale mes manuscrits. Alors j'ai dit non, je ne vais pas donner mes manuscrits. Parce que souvent, je suis trop mauvais. Bon. Enfin, bon, je ne voulais pas voir ça. Je ne voulais pas qu'on voit ça. Je ne voulais pas que génétiquement, il y ait un travail sur ça. Je voulais faire une certaine preuve d'autorité de ce milieu-là. Autorité à Auctor, n'est-ce pas? Autorité à Auctor. Bon. À Auctor veut quand même dire agrandissement aussi. Bon, mais il y avait une preuve d'autorité. Alors, j'ai donné à la Bibliothèque nationale les commentaires de tous mes poèmes. Mais attention, des notes qui permettent de situer quand ça a été écrit et quand il y a une difficulté syntaxique, de dire c'est comme ça que ça se passe. Ne cherchez pas trop loin, c'est comme ça que ça se passe. Ce mot-là, vous ne le connaissez pas. Je vais vous dire d'où il vient. Hein. C'est pas la peine que vous fassiez des bêtises. Moi, j'ai fait. Donc, quand je publiais Rimbaud. Mon édition de Rimbaud en Garnier Flammarion, voilà, c'est une édition très où je m'aperçois des difficultés que pose un texte, les difficultés principales. Et là où j'aurais aimé que Rimbaud nous souffle quelque chose à l'oreille. Alors donc j'ai donné à la Bibliothèque nationale d'autres, mais pas des manuscrits, mais des petits cahiers, comme ces cahiers que Breton disait que chacun écrivait de son côté. Et il y a une dizaine de cahiers. C'est pas si Esther, qui est dans la salle, a procédé de cette façon. Non. Pas de...
Merci Jean-Luc, c'est toi qui m'as intronisé.
Oui, oui, non, mais c'est très important, bien sûr. C'est très important. Il faut voir...
Des cahiers qui n'empêcheront pas, malgré tout, d'aller voir dans tes brouillons.
Oui. Ben, le cahier d'Europe, là, ce qui a été fait dans Europe, est parfaitement juste, mais toujours à côté. Toujours à côté. On sera sans doute toujours à côté. Moi aussi, je suis à côté. Asymptote de quelque chose, mais toujours un peu à côté.
C'est ce que disait Jean-Baptiste. C'est pour ça que tu es à la fois dans le regard, l'observation, et à la fois dans une sorte de recul, ou du moins presque de para-regard, ou para-texte, presque de toi-même.
Moi, je pense que c'est ce qui maintient la vie en vie, voilà. D'une certaine manière. C'est qu'il y a de l'inépuisable.
Oui, voilà. Inexhaustible.
C'est Denis d'Halicarnasse qui disait « Dans les bras du ravisseur, il y a toujours de l'imprenable.
Oui. » Qui disait ça ?
Denis d'Halicarnasse.
Oui. Je le lis rarement.
Préfère moi aussi, je vous rassure. Je vous rassure. Mais j'ai trouvé que la formule était assez suggestive. Mais...
C'est bien de manifester ce rapport à l'ensemble de la littérature aussi, vous voyez. Ça, par exemple, vous en apercevez de plus en plus. Et dans dans Vers l'Apocalypse, ils sont là, les 17 poètes parlent à la fin. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, il y a les 24 vieillards à la fin. Mais à la fin, là, moi je dis pas 24 vieillards, 17 poètes.
Oui, c'est ça.
Les très grands, pas parce qu'ils sont très grands, mais parce qu'ils ont parlé du monde et de la fin du monde. Alors, Lucrèce n'est pas là.
Il est ailleurs.
Il est ailleurs.
Il est ailleurs dans le livre.
Il est ailleurs dans le livre.
Hein. Tout à fait.
Enfin, il y a Homère. Hein, Homère, et ça se termine par... par Emily Dickinson. Tout à fait. Mais dans la mesure où elle parle, évidemment, de l'Apocalypse.
Évidemment. Alors, il y a bien évidemment Dante... Et avant même de lire ce poème qui se situe vers la fin du livre, lisant Vers l'Apocalypse, j'ai plusieurs fois pensé à Dante. Non pas qu'il y ait quelques proximités immédiates ou parallèles qui tomberaient sous le sens, mais je pense qu'il y a... Ce qui a pu m'y faire penser, c'est d'une certaine manière... l'ampleur, non seulement du poème, mais je dirais de la visée ou du mouvement qui le porte. C'est-à-dire que, bon, j'imagine que, évidemment, le livre s'est écrit progressivement, sans qu'il y ait un plan balisé, concerté. Mais c'est comme si, dès le départ, il portait en lui-même la nécessité d'une certaine ampleur.
Ça, c'est tout à fait juste. Il a été travaillé, concerté. Ça, faut le dire, il a été travaillé et concerté. J'aurais pas pu autrement.
Mais bien sûr.
Mais il y a un poète qui montre ça, que je ne cite pas, et c'est Lautréamont. Vous lisez première page de Lautréamont, tout est là. Enfin, tous les chants de Maldoror, toute la possibilité des chants de Maldoror se développent. Lui aussi, d'ailleurs, avait une connaissance du Dante. Moi, ma connaissance de l'italien, vous savez, hein, à part commander un certain type de spaghettis, c'est assez rare.
Non, non, mais ce n'est pas du tout de l'intertextualité ou des choses comme ça qui m'ont fait penser à Dante.
Oui.
C'est simplement que d'une part, il y a cette ampleur, et c'est surtout que Dante arrive à mettre en corrélation, à mettre en dynamique différents niveaux, différents degrés, différents domaines, registres de la réalité. Et il ne dédaigne pas du tout d'y inclure, je dirais, l'histoire la plus brûlante, la plus présente, même s'il emploie un cadre qui n'est pas un cadre entre guillemets, historique, même si l'invention du purgatoire est une invention récente à ce moment-là. Hein. Mais enfin, donc un cadre qui serait chez lui, un cadre qu'on pourrait dire théologique. Enfin, son imaginaire, après même Galilée a essayé d'arpenter l'enfer de Dante, d'en prendre les mesures, etc. Mais C'est pour dire qu'il y a dans ce livre, vers l'Apocalypse, une aptitude assez remarquable à embrasser finalement tout ce qui traverse beaucoup d'esprits dans leur solitude actuellement, mais ce qui leur traverse l'esprit dans leur solitude, mais qui les relie profondément à une inquiétude, à un souci, je dirais, pas partagé. Et qui, justement, quand ces questions-là se posent, d'une certaine manière, elles sont à la fois brûlantes et actuelles, mais elles font taire absolument tout le brouhaha de l'actuel, de ce qu'on appelle l'actualité. Mais tout ça se fait à partir d'un cadre, je dirais, qui opère comme un décentrement. Ça m'a fait penser aussi, figurez-vous, je me suis souvent dit que le présent était toujours un peu indéchiffrable, comme une anamorphose. Quand on la regarde en face, l'anamorphose, on ne comprend rien, on n'y voit rien. Et en fait, il faut faire un pas de côté pour que quelque chose commence un peu à apparaître. Et il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, je dirais, dans la dynamique du poème. C'est-à-dire d'avoir ce souci d'être présent au présent et à tout ce qui inquiète, d'une certaine manière, le devenir de l'humanité, et en même temps avec ce pas de côté ou ce recul ou ce filtre, je ne sais pas comment le dire, qui serait la trame revisitée de l'Apocalypse. Ouais. Et qui est revisité tout à fait librement, c'est-à-dire tout à fait dénoué d'exégèse biblique.
Oui, enfin, on pourrait discuter très longuement sur ce livre qui malheureusement n'a pas pu être pris en compte.
Qui a été fait avant.
Ben voilà. Hein. Et c'est un livre de fin de vie, n'est-ce pas? Donc, j'aurais pas pu écrire ça même à 50 ans.
Puis je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour qu'on puisse en parler.
Tout est là, oui. Tout est là, pas concentré, mais en état de... Voilà, c'est donné. Et il faudra du temps pour qu'on puisse s'y repérer. Ce que je retiens, c'est que... et chez moi, il y a souvent ce mouvement... c'est-à-dire une tendance au mythe. Ce que je vis dans l'actuel, pour moi, il n'est pas difficile, par exemple, de transformer l'heure présente, là, en mythe, en élément décisif. Je dispose de l'Assemblée. C'est pas de l'autorité, mais c'est une... L'alchimie se fait en moi. Et donc, je me suis toujours ressenti comme formé de signes. De signes. Malgré l'arbitraire du signe, oui. J'ai senti. Et je sais que dans n'importe quelle situation... elle peut être élevée à ce niveau de mythe, qui évidemment fait advenir une nouvelle forme de vérité. Nous ne détiendrons jamais la vérité, voire bataille, etc. Mais c'est une nouvelle forme. Et donc, l'œil s'ouvre autrement. Et alors, évidemment, la poésie est un lieu admirable pour ça. Vous lisez Une saison en enfer, c'est quand même un démêlé autour de Rimbaud et de Verlaine. Et puis il faut voir ce que ça donne, quoi. Nous sommes dans une autre dimension. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette autre dimension, elle est à la portée.
Oui.
Elle est à notre portée. Sans doute à la portée de chacun. Mais, et donc le poète, c'est un peu celui qui fait advenir.
Ce qui me semble qu'on peut ressentir à lire, par exemple, vers l'Apocalypse, c'est le fait que le passage à une autre dimension ne signifie pas que l'on congédie, que l'on abandonne, que l'on délaisse la dimension première.
Oui, bien sûr.
C'est pas un substitut. C'est pas une transformation où on perd de vue, le sol premier, vous voyez. Et c'est parce qu'à mon avis, une poésie qui serait purement une sorte de transfiguration et passage au mythe dans l'oubli, disons, des autres données, serait quelque chose d'assez artificiel. Et justement, l'émotion vient peut-être de la concomitance des niveaux. Et souvent, chez vous, après ces envolées, je dirais, où on passe par des choses, je dirais, des grandes choses, des grands thèmes, tout d'un coup, on est rendu à quelque chose d'infiniment proche et qui devient d'autant plus émouvant que justement, il apparaît là et on se dit, il ressurgit et il n'a pas été oublié. Ça peut être un élément, un arbre, un être, le plus proche, le plus immédiat, le plus quotidien même.
Il y a les quatre chevaux de l'Apocalypse, par exemple, et voilà. On voit que c'est un cheval qui est dans la prairie, comme ça. Voilà. Et puis, il prend une autre allure, peu à peu.
Mais justement, le regard est changé. C'est-à-dire que le regard sur l'ordinaire, c'est comme si c'était une manière de combattre l'entropie de la sensation, l'entropie du regard, par ce détour, par le mythe, qui ramène les choses les plus, peut-être les plus simples, comme dans une fraîcheur, comme dans leur fraîcheur native.
Ouais. C'est des choses auxquelles tu es, enfin, dans ton œuvre, on le perçoit très nettement depuis très longtemps déjà.
Ben j'espère, oui. Mais je suis toujours un peu dépassé par
cette attention à l'ensemble.
Votre attention de lecteur, ça me dépasse toujours. Et j'ai toujours peur de ça d'ailleurs, parce que je trouve qu'un moment fatal pour la poésie, très important mais fatal, c'est le moment où la poésie réfléchit trop sur elle-même, n'est-ce pas ? Évidemment. Donc le moment pot, quelle épreuve ? Le principe poétique, quelle épreuve ? Baudelaire qui tourne autour de ça, quelle épreuve ? Il a eu de la chance quand même de pouvoir faire ses fleurs du mal. Parce qu'avec cette conscience poétique que lui donnait Edgar Poe, il risquait de soupçonner la moindre des choses qu'il écrivait. Oui, alors évidemment, ça, notre époque poétique souffre beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire une auto-réflexion. Là, je l'ai donné parce qu'on est entre nous, comme ça. Mais je ne me disperse pas dans ça quand j'écris. Mais évidemment que la poésie du XXe souffre d'une auto-réflexion excessive, qui fait que le réel, d'ailleurs, le prétendu réel, est abandonné.
Ce qui fait que la beauté, finalement, tu la cherches.
À la beauté,
toujours.
C'est autre chose. Ça, c'est, ouais.
Je
l'accepte. Je me dis, oui, il faut bien qu'il y ait quelque chose.
Je pense qu'il y a une grande, peut-être, enfin, j'avance ça prudemment, mais je pense qu'il y a certainement une grande différence entre ce qui relève de la pratique critique, qui a vraiment son importance, et de la pratique du poème, parce que je pense que dans la pratique du poème, il n'y a pas de thésaurisation possible de l'expérience. Ce qui importe toujours, ce n'est pas l'acquis des expériences faites, c'est l'expérience en train de se faire, l'expérience à faire. Tandis que je pense que dans l'exercice du travail critique, oui, c'est évident que des acquis... peuvent être remis en circulation, même après modifiés, transformés, etc. Mais avec des acquis, on est quand même plus aguerri, mieux armé. C'est pas du tout ça qui se passe, à mon avis, avec l'expérience de l'écriture du poème. C'est comme si c'était, c'est comme
quelque
si on
chose
était à nu, tout nu, à chaque fois.
Alors, évidemment, y a toute une période de mon écriture poétique où je me suis méfié du point de départ. Donc, il y a au moins 3 recueils où je fais l'économie du point de départ. Les gens ne s'en aperçoivent pas, mais je prends la première phrase chez un autre auteur, systématiquement.
Comme un embrayeur.
Et je démarre. Mais il y a des poèmes qui sont faits, il y a toute une série qui s'appelle Lisant Ashbery, qui est un grand poète américain. C'est collé des textes. J'ai fait des poèmes à partir de la traduction d'Ashbery, en y ajoutant un certain nombre de choses. Bien sûr. Alors, bien entendu, c'est la méthode de Lautre et Hamon, ça. La méthode de Lautre et Hamon. C'est-à-dire que les choses que j'ajoute rendent le poème absolument original.
Il y a peut-être des questions dans l'assistance, non ?
Ah ben oui, je suis... On a dérivé un peu. C'est fait pour ça, d'ailleurs.
Vous parliez de l'arbitraire du signe.
Et... L'arbitraire du signe ?
Oui. Et on a quelqu'un à substituer à ce syntagme la contingence du signe. Est-ce que ce ne serait pas préférable ? Et puis après, j'ai l'autre question... sans vous avoir lu, est-ce que vous accepteriez de dire que votre travail relève d'une mystique non religieuse ?
Tu as entendu ?
Oui. Est-ce que ça relève d'une mystique
non religieuse ?
Oui. Alors première chose, oui.
Contingence ou
contingence.
J'ai pas réfléchi à la contingence. Non, mais je sais que quand je ne savais pas lire. Oui, ni écrire, c'est que vraiment, j'avais pas perçu ce que c'était que l'arbitraire du signe. J'avais pas perçu que cette règle du jeu. Je n'avais pas la règle du jeu. Après, j'ai compris. Bon, la règle du jeu est quand même fondée sur l'arbitraire, pas sur la contingence.
C'était un refus de cet arbitraire quand vous étiez enfant, peut-être.
Ben, ça n'a pas été un refus, je l'ai subi. Hein. Oui, mais... C'est mon... Après, c'est devenu une expérience de ça. Hein? Mais oui, c'est-à-dire, je trouvais que c'était tout à fait illogique que tous les vers soient appelés vers. Pour moi, il y a un vers, bon, puis cet autre-là, il devrait s'appeler autrement.
tout aurait dû être nom propre, finalement.
Quelque part. Bref. Si on se met dans le nom propre, nom commun, là, on est dans un ensemble. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience évidemment pénible, très, très pénible. J'invente pas ça pour le plaisir. Hein. Et j'aurais pu... Heureusement que ça s'est passé pendant la guerre, parce que et dans une petite école communale, où les gens comprenaient pas ce qui se passait, parce que aujourd'hui, on m'aurait collé avec des autistes. J'étais fichu, là.
On t'aurait mis des orthophonistes.
J'étais fichu.
Et qu'est-ce qui a débloqué ?
Ah ben ça, je peux... une maladie. Une maladie et le dictionnaire. Les images du dictionnaire. Dictionnaire en 2 volumes. Ouais. Maladie, la paratyphoïde. Donc les maladies, vous savez, les maladies d'enfance. Période. Donc je me souviens très bien de la convalescence qui correspondait à une deuxième naissance. Et à la fin de la convalescence, je savais lire. J'avais compris la règle. Je ne sais pas pourquoi. Mais mes parents, pendant cette période-là, ça a duré longtemps, un mois, ils m'avaient donné le dictionnaire Larousse en 2 volumes. Alors, il y avait plein d'images. Et puis, il y avait quand même des textes. Mais les images qui m'intéressaient, c'était les reproductions des peintres-pompiers. Pas nécessairement érotiques, voilà. Il y a un rapport. Oui, enfin, je dis... je tends la perche quand je dis ça. Mais je crois pas que c'était... Non.
Mais ils étaient tellement désespérés qu'ils avaient même, je pense, tu m'avais dit ça, fait appel à une institutrice russe.
C'est ça, on m'a demandé, oui, on a fait appel à une réfugiée russe de l'époque. Alors évidemment, elle n'a pas su m'enseigner pour lire et pour écrire. Et évidemment, j'étais dans l'oral sans difficulté. C'est vraiment lire, écrire. Alors il m'en est resté, tous les bouquins d'aujourd'hui reposent sur ça.
Alors l'autre
question, ouais. C'était...
Une mystique sans religion.
Une mystique, oui. Alors là, sans religion, oui, mais ça ressemble à Bataille, n'est-ce pas ? Parce que c'est le titre de l'article de... l'article de Sartre sur Bataille. Une mystique sans Dieu. Un mystique sans Dieu, oui.
Un nouveau mystique.
Je crois qu'il a utilisé à l'intérieur... Un nouveau mystique. Mais oui, mystique sans Dieu, oui. Non, j'aimerais bien être un mystique. J'aimerais bien être un saint. Ça marche pas de ce côté-là. Hein, l'illumination, ça marche pas pour moi. J'aimerais bien. Hein. Je vous avoue que quand on est... Après ce que je vous ai dit, je suis tout à fait... On se dit, il est fait pour ça. Pas du tout. Là, quand je retourne en Normandie, je vais m'asseoir pendant 4 heures à regarder... un paysage, enfin quelque chose qui ressemble à un paysage. Je vais peut-être dire, si je pouvais prier quelqu'un, je vais peut-être dire ça. Ça m'arrive. Et il dit, merde, personne pour entendre, c'est pas la peine. Bon, c'est pas la peine. Mais je sais que c'est absolument infini, le monde infini. Donc j'ai pas peur de parler d'infinité, d'éternité. Ça, c'est des gros mots, quoi. Mais je les utilise. Je vis avec eux aussi.
Y a-t-il une autre question ?
Oui ?
J'ai pas bien répondu. C'est avec mes moyens.
Bonsoir. Je dirais si, c'est la peine. Je dirais si, c'est la peine. Ce que vous disiez, c'est pas la peine.
Qu'est-ce qui vaut la peine ?
De prier.
Hein ?
De prier.
De prier.
Oui.
En fait, je vous réponds ainsi.
Oui, oui. C'est pas un hasard si on arrive à ce mot. Mais... Je suis dans le risque, je suis dans un risque permanent quand même. Et je suis un peu pascalien de ce côté-là.
Oui.
C'est-à-dire, il y a l'abîme. Sur le côté droit, il y a l'abîme. Ouais.
C'est ce qu'il m'a semblé entendre, parce que ma question était, enfin, j'allais rebondir sur ce que vous aviez dit, la poésie n'est quand même pas une prière, pas une guérison, ce serait trop simple. Mais ce faisant, vous les avez rapprochés.
Dites-moi, là j'entends.
La poésie n'est pas une prière, n'est pas une guérison. Ce serait trop simple, mais pourtant, tu les as rapprochés.
Oui, mais je suis bien obligé d'utiliser l'arbitraire du signe, n'est-ce pas ? Pour parler de la poésie. Oui. Non, mais Dieu, je vais vous faire cette confidence pour tout le monde. Dieu m'intéresse en tant que tétragramme. En tant que quatre lettres. Ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons des parlants. Ça, je trouve ça formidable. L'ensemble du monde qu'on connaît ici ou là, mais il y a la parole. Et cette parole, je vais aller jusqu'à dire, comme Rimbaud, c'est le verbe. C'est le verbe. Donc là, je suis à la limite de quelque chose. Le verbe, la parole créatrice.
Alors, pour ma part, une curiosité personnelle qui pourra sembler peut-être très anecdotique, Mais c'est quelque chose qui m'a, disons, qui m'a surpris, qui m'a frappé. C'est que dans Vers l'Apocalypse, il y a un vers qui dit « Un trajet entre les montagnes pour monter chez Gustave Roux ». Alors, comme c'est un poète que je trouve merveilleux et en même temps pas mis à sa juste place en général, il était suisse, ce qui explique aussi les choses, mais je me dis « Vous êtes allé voir Gustave Roux, c'est dans votre imaginaire que vous... »
Non, mon imaginaire, il est très précis, malheureusement, trop précis. Et trompeur, comme tout imaginaire. Ça, c'est dans une longue liste qui s'adresse aux nations.
Oui,
ça s'appelle, il y a 10 pages, recensement des nations de la Terre. À un moment, je parle des Suisses. Oui. Et donc, sans, comme c'est écrit vite, tout de suite, je pense à Gustave Roux.
Ah, d'accord.
Et pourquoi je pense à Gustave Roux? Parce que j'ai écrit, comme vous le savez, un livre sur Jacoté. Jacoté m'a parlé de Gustave Roux. Mon bonheur aurait été aussi de rencontrer cet homme. Cet homme est dans la difficulté d'être qui a été la sienne aussi. Ouais. Avec l'homosexualité rentrée, qui est quelque chose de... Voilà.
Mais une attention extraordinaire au monde, enfin, au monde...
C'est ça, au monde
paysage,
rural.
Au
monde rural, oui. Mmh. Ouais. Oui. Donc, monter, ce Gustave Roux, c'est Moudon, oui.
D'accord.
Donc, quand je dis ça, c'est pas possible que je fasse quelque chose par épate. Je n'écris pas pour faire de l'épate.
Ah non, ça, j'ai bien senti. C'est pour ça que je vous posais la question. D'accord. Y a-t-il encore une question?
Une question. Sinon, on peut peut-être passer à une lecture.
Ouais. Oui. Bon, ben, rapidement. Hein.
5 minutes de lecture.
Il y a malheureusement des poètes qui nous ont quittés. Un poème qui s'appelle... Vous m'entendez bien là-bas? Parce que moi, je... Ouais. Le rêve de DR. D.R. C'est dédié à Jean-Marie. Je ne retrouve pas le début. La fin était sensiblement prévisible. Je me le dis, et pourtant n'y crois pas. Il y a là une poignée d'hommes en terrasse. Lui, à la veste beige, je tairai son nom. Du reste, je l'ignore et le connais tout à la fois. Sédimentaire, magmatique, métamorphique. Visage fermé, lèvres minces, grand front et souffrant. À plusieurs reprises, il se lève, parcourt un petit espace de rue pour changer de place sa douleur. Il se rassied, prononce quelques mots que l'on essaie de comprendre. Il les détaille distinctement, mais son effort n'y suffit pas. L'après-midi passe dans une fausse bonne humeur. Même à 16 heures, il est trop tard. On sait avec certitude que le moment de quitter la brasserie des Lucioles sera celui de mourir et qu'il n'y a rien de mieux à faire que de l'attendre. Le nom est donné à un moment. Sédimentaire, magmatique, métamorphique. C'est Denis Roche. C'est Denis Roche.
Encore un poème?
La brasserie des Lucioles. Encore un poème? Ben là, c'est un poème sur un poème. D'Horace.
Très bien.
Je vais en faire plusieurs comme ça. Au revoir, Laurent. Horace... 13e ode du livre 2. Maudit soit cet arbre, truncus illapsus, qui faillit me fendre la tête, et maudit celui qui le planta il y a 60 ans, quand moi-même, à 620 km de là, je traversais le Luxembourg, allant au rendez-vous, plein de semences et de traits d'esprit,
pour une jeune libertine sortie du séminaire de Herbé et chiffonnant un journal de mode à la couverture rouge et verte comme un Delacroix. L'arbre, en son lieu, prit racine, grandit, branchifia, étendit le dôme. Plusieurs fois en vacances, je lui ai confié mon urine et touché son feuillage avec bénédiction. Je ne l'ai pas vu vieillir, à ma vitesse de vivant, sans déception ni promesse. Je n'étais pas là quand la foudre imprima sa brûlure jusqu'au cœur. Une minute de plus me fut attribuée, sitôt passée, avant qu'il s'effondre à grand fracas. Maintenant, Arbos néfastodié, j'écoute d'Horace l'avertissement sur le mode alcaïque, en regardant le ciel qui me reste sans qu'il tombe à mes pieds.
Merci.
Donc c'est une transposition. Ouais. Ben, je vais lire un dernier
d'accord,
poème.
Avec plaisir.
Hein, tu m'avais dit 6 minutes. Bon, allez. Ce poème, c'est pour Valère Novarina. C'est des poèmes qui vont être publiés.
Qui a fait la couverture.
Chez Tarabuste, oui.
Vers l'Apocalypse.
C'est pas vers l'Apocalypse, donc ces poèmes-là. C'est des poèmes un peu journaliers.
Enfin, Valère Novarina a juste donné le dessin pour la couverture. Voilà.
Pour Valère. Depuis ta maison de bois, 1200 mètres d'altitude, tu me téléphones. Le soleil vient de poindre. Poindre, est-ce le mot ? Nous cherchons. Tu t'informes de mon état après la longue épreuve, ces jours accumulés pour toi dans la neige, moi repérant quelques centes nouvelles d'animal buissonnier. Tu m'apprends que tu lis Hegel. Lequel ? Et je bafouille à Aufhebung. Te rappelle qu'il eut peur de la mort quand cela il fut grand, comme nous. Qu'il ne renonça pas à pousser le portillon arrière et qu'il fut plus à l'aise avec l'ironie qu'avec l'humour. Puis nous sommes revenus à des sujets plus simples, comme ceux sur lesquels on aime reposer la pensée en son habileté qui ne se lasse et qui, sans s'arrêter, enlace la treille aux cadavres florissants. Bien d'autres expressions rapides se succédèrent pour faire allusion au terme du voyage, des noms de gares et de changements, l'arrivée du sang qui pulse au bout des doigts vers les 7 heures du soir, le va-et-vient des lampistes, les planisphères, le fortin de l'aiguilleur, les bagages trop nombreux, la petite photo qui ne passera pas la douane parce que maman a l'allure d'une espionne.
Merci. Merci beaucoup.
Merci. Et
merci à vous.
Merci à vous d'être venus.